Il y a un jour, un tout jeune pasteur, en stagiaire, il va trouver le pasteur titulaire et il lui pose une question. Comment faire pour faire une bonne prédication? Et alors, l'ancien, le vieux routard, il lui dit, il faut, pour une bonne prédication, qu'il y ait un bon début et une bonne fin. Et en plus, faire en sorte que le commencement et la fin soient le plus rapprochés possible. Je vais essayer. Une autre anecdote qui est réelle, celle-là, c'est le sculpteur Michel-Ange. Il parcourait une carrière de marbre avec, vous savez, des gros blocs qui étaient là et séminés. Et il a demandé à son aide, il a donné cet ordre surprenant. Il a dit, apporte-moi cet ange dans mon atelier. Il n'y avait aucun ange, il y avait des blocs de marbre. Mais lui, quand il a vu les blocs, Michel-Ange, il a vu l'ange. Il a vu ce qu'il allait faire dans le bloc. Vous connaissez la série des inachevés qu'il a fait, qui sont absolument splendides au musée de Florence. Et j'aimerais dire qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler, la parole sur laquelle on se base, c'est Habacuc 2.4, le juste vivra par la foi. Et avec l'exemple d'Abraham, et le prophète Ésaïe, chapitre 51, va dire « Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. » Nous sommes dans du Michel-Ange là. « Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Donc ça, c'est étonnant, ce passage, qui nous donne l'injonction de regarder sur Abraham, notre père, et Sarah, notre mère. Chacun ici, on est le fruit d'un regard du père. Il nous a vus un jour dans la fosse. Il a vu le bloc de marbre dans une carrière, il a dit « Waouh, je vais faire et tu peux mettre ton prénom » parce qu'il a prévu, il t'a vu avant même que tu sois formé. Et c'est lui qui a tissé, c'est lui qui a façonné et qui veut encore façonner. Et il nous invite à regarder Abraham qui, la Bible dit, il est notre père à tous. Romains chapitre 4 verset 16. Alors bien sûr, Dieu est notre père. Et ça, c'est facile. Dieu est notre Père, on l'a encore chanté, tout ça. Mais Abraham est notre Père, ça ne vient pas si facilement. Hein? Alors, à la limite, l'arrière-grand-père, mais le Père, Abraham, il y a longtemps qu'il n'est plus là. Ça veut dire quoi? Donc, si tu veux de l'autorité pour ton futur, il faut commencer par honorer les pères dans le passé. Et donc, si nous voulons marcher dans la foi, la Bible nous dit, commence par honorer les pères dans la foi. Et donc honorer, ça veut dire connaître, méditer, regarder leur vie, etc. Et c'est ce qu'on va voir quelques instants ce matin. Genèse 12, 1-3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qui a été fait par Yonoël ce matin, tous ces drapeaux qui ont été placés sur cette mer, la mer, ça nous parle du monde dans la Bible, eh bien ça parle de Dieu qui nous rappelle la bénédiction d'Abraham en tant qu'individu et en tant qu'église locale. Et donc cette foi d'Abraham, qui a parlé à Abraham? Ce qu'il ne connaissait pas, ce Dieu. Et la Bible, elle donne, dans le livre des Actes, chapitre 7, elle parle d'Abraham, elle dit, le Dieu de gloire apparut à Abraham, à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, et lui dit, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Donc c'est le Dieu de gloire. Il ne savait pas encore exactement qui c'était, mais il a vu quelque chose de la gloire de Dieu, le Dieu de gloire. L'Éternel dit à Abraham, et nous sommes ici, je pense, j'espère, parce que nous avons entendu un jour une parole de Dieu. Et cette parole, elle est fondatrice. Cette parole qui t'a parlé un jour, qui t'a sorti de la fosse, qui t'a sorti de ton bloc de congélation de marbre là, qui a fait que tu acceptes d'être forgé, d'être taillé, c'est une parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, Hébreux 11, lors de sa vocation, obéit et partit. Obéit et partit. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est toujours une marche. Et c'est pas une odyssée. Vous savez, comme Ulysse, il part, des galères, machin, et il revient casse départ. Ça n'a rien à voir avec ça. La marche chrétienne, c'est un exode. On quitte et on va dans un héritage. Et on ne revient jamais à la case départ. Et donc, cette parole de Dieu qu'on a entendue au départ, est-ce que tu as entendu cette parole ? J'étais béni cette semaine, nous avons eu dans cette salle même les soutenances de mémoire des deuxième années des étudiants de l'ISP. On a vécu vraiment des moments très forts. En lisant leurs mémoires, en écoutant leurs témoignages. Je pense à celle qui est maintenant à l'établissement Daniel, à Céline, qui venait de Thiers et qui a été plongeuse dans un restaurant après avoir fait une licence de lettres. Et puis elle rêvait d'être enseignante et le rêve était fini. Elle était à la plonge. Et puis elle s'occupait toujours des enfants à l'église, etc. Et un jour le Seigneur lui dit, quitte ta famille, ton église et va en Alsace. La foi, plus de sécurité matérielle, plus de repères et elle est partie. 3 ans après, elle a trouvé son mari, sa vocation et elle s'est mariée à 15 jours. Et c'est l'héritage et un emploi au Collège Daniel, le fleuron. L'éducation chrétienne. Et les enfants, oui, les enfants de son mari qui est arrivé avec quelqu'un. Voilà. Donc vraiment, il y a un bel héritage qui est là. Je pense aussi aux premières phrases de Rachel. Rachel, la directrice d'école Fontenay, qui travaille avec Materindel et qui écrit ceci. Je suis venu à l'ISP pour rencontrer Dieu et sur le chemin, je me suis rencontré. En me rapprochant de moi-même, j'ai appris à me rapprocher des autres et mon regard sur la création a été transformé. Ce n'est pas la somme de nos connaissances qui nous qualifiera pour le royaume de Dieu, mais une bonne relation avec Dieu et sa grâce et notre capacité à aimer et à servir. Vous vous rendez compte ? La transformation. Vous savez, l'institut s'appelle Former, Réformer, Transformer. Et j'ai vu le lien qu'il y avait entre la marche, l'obéissance et l'héritage. Je pense aussi à Alana parmi nous, qui quitte les États-Unis, l'Arkansas. Tout ça, toute cette culture du McDo. Hein, et puis qui vient parce qu'elle a un fardeau pour la France. Et arrivée en France, elle trouve son héritage. J'espère qu'il n'est pas encore complet, hein, mais il y a une première partie. Tu as et les jeunes dont tu t'occupes, c'est ton héritage. Je pense aux lits des États-Unis aussi qui viennent. Et figurez-vous qu'ils ont réussi le test de français, pas pour la nationalité française. C'est pas beau ça. Ils sont partis, ils ont laissé les situations, etc. Et ils rentrent dans un héritage qui est bien plus qu'une église locale, qui est les nations, et en particulier l'Europe. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Il est parti sur une parole de Dieu. Il avait la certitude qu'il y avait un héritage pour lui. Maintenant, j'aimerais poser la question. Est-ce que tu as vu ton héritage ? Est-ce que tu es certain de ton héritage ? Ou est-ce que c'est un peu vague ? Je rappelle les héritages que Dieu... Nous sommes dans un réseau qui s'appelle héritage, donc il y a intérêt quand même. J'ai voulu faire une interrogation écrite, mais j'ai pas, je me suis dit, bon, ça sera pour après, une prochaine fois. L'héritage, d'abord, Dieu est notre héritage. C'est incroyable, ça. Hein? L'Éternel est la portion de mon héritage et ma coupe, psaume 16,5. Dieu est notre héritage, ça c'est fabuleux. La justice, c'est notre héritage. Romains 5,19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et plus loin, 1 Corinthiens 1,30, Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est notre héritage, la justice. Le salut, notre héritage. La vocation, hein, quand Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous. C'est les anges dont il est question, mais les héritiers, c'est nous. On est hérité de la parole. Tes préceptes sont toujours mon héritage. Ta parole, c'est la parole de Dieu, c'est notre héritage. Un grand. Vous savez pourquoi on l'appelle Nouveau Testament, Ancien Testament, ça, c'est la notion d'héritage. Les enfants, c'est notre héritage. Spirituel, enfant physique, psaume 127,3. Un autre héritage intéressant, c'est l'héritage du corps glorifié. Nous avons un corps avec des défauts, mais sachez qu'il y a un corps au ciel qui t'attend, enfin au ciel qui descend sur terre. Hein. Donc il y a un corps qui t'attend et tu vas vivre l'éternité non pas seulement comme une âme paumée dans une sorte de nirvana inconsistant, mais Dieu t'a préparé un véritable corps. Tu vas manger du barbecue, comme Jésus l'a fait après la résurrection, des grillades. C'est quand même une bonne nouvelle que le barbecue ait des fondements bibliques. Soyez reconnaissants envers Dieu. On dit merci Seigneur pour ça. C'est le fondement du barbecue. Et ce corps glorifié, figurez-vous, qu'il est disponible en partie et qu'on peut prendre dans la foi, c'est la guérison. On prend, c'est Catherine Kuhlmann, hein, quand elle priait pour les malades, il y avait des gens, il manquait des membres, elle allait chercher dans la foi, dans le corps glorifié, le membre qui manquait, et elle l'a tiré, et il y avait la guérison. Donc ça, c'est le corps glorifié. Et puis, l'héritage, c'est la terre. Matthieu 5,5. Heureux les humbles de cœur, ils hériteront la terre. Romains 4,13. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et puis, le royaume de Dieu, qui est notre héritage. Jacques 2, écoutez mes bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et Daniel, le prophète Daniel, qui a une vision du ciel, il voit Dieu, et il voit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement. Donc, cet héritage-là, c'est le nôtre, à chacun. Et Abraham, il a vu son héritage, et il est rentré dans l'héritage. Et cet héritage qui s'acquiert par la foi, c'est un héritage, tu n'as rien à faire pour le mériter. Il est là, il t'est déjà donné. En fait, la seule chose, c'est il faut le voir, il faut le croire. Je crois qu'il y a quatre questions très importantes au niveau de l'héritage. D'abord, qui est Dieu? Hein? Il faut bien répondre, qui suis-je? Hein? Et qui suis-je? Dans quelle famille est-ce que Dieu m'a mis? Parce que l'identité, c'est toujours une identité de fils et de fille. Mais qui dit fils et fille, c'est famille. Donc, la question « qui suis-je ?», on ne pourra jamais y répondre si on n'est pas intégré dans un corps local. Il y a une perte d'identité quand on n'est pas dans une famille. Et il ne faut pas me parler d'une famille universelle. Dieu a fallu des familles bien charnelles, avec leurs défauts, avec leurs incapacités, leurs faiblesses, leurs zizanies parfois. Mais Dieu est le Dieu des familles, et si tu veux être fils et fille héritier, tu as intérêt à connaître ta famille. Et qui sont tes pères ? Qui sont ta mère, etc. Et puis ensuite, quel est mon héritage? Ça, c'est la troisième question. Donc, qui est Dieu? Qui suis-je? Quelle est ma famille? Quel est mon héritage? Et puis ensuite, avancer et commencer à redonner ce que j'ai. C'est comme ça qu'on rentre dans son héritage. Donc, vous voyez, pour Abraham, la foi, ça n'a pas été cette baguette magique hein, qui résout tous les problèmes. Si on voit la vie d'Abraham, il est bien évident que non. Et Abraham a eu affaire comme nous, à des pensées tout à fait tordues. Il a obéi à cet appel, il s'est engagé dans l'inconnu, et il a eu des restrictions mentales qui l'ont empêché d'avancer bien. Par exemple, Dieu lui dit, Abraham, tu quittes ton pays, tu vas dans le pays que je te donnerai. Vous savez comment il a quitté? C'est le papa d'Abraham. La Bible dit, c'est Térak qui a pris la tribu, et Abraham, il a suivi. Et Térak, il n'est même pas allé en Canaan, il est allé à l'opposé, au nord, à Charan. Alors là, il est mal barré, Abraham. On pourrait dire, pour le héros de la foi, il suit les traces de papa, alors que c'est à lui que Dieu a donné. Oh, lève-toi, t'es un homme, arrête de suivre le papa, c'est bien de l'honorer. Mais maintenant, c'est toi qui es un père. Eh bien, il a mis du temps. Il a mis 15 ans à comprendre qu'il fallait qu'il lâche les basques de son père. Moi, j'espère, la paternité ici, dans l'Église, attention, ce n'est pas le paternalisme. Le paternalisme, c'est mon petit, c'est bien, on est bien tous coucounés, tout ça. Non, non, non. La paternité, c'est on lève des fils et go, au boulot. C'est ça. Alors, heureusement qu'il y a des mères, parce que ça tempère un peu. Mais je peux vous dire, il faut une paternité. Et Abraham a mis 15 ans. Alors, il ne faut pas mettre 15 ans, les amis, hein, comme avant. Il ne faut pas mettre 15 ans. Donc, ils s'étaient arrêtés. Ils n'étaient pas dans la terre promise. Très probablement que la zone de Charan, c'était encore la partie au niveau domination, au pays. Dieu l'a guidé dans son pays. Il n'a pas quitté le pays, ni ses parents. Vous voyez, donc, il a eu du mal. Ensuite, le père a dû mourir. Et donc, là, il a recommencé la marche. Et enfin, il s'est bougé. L'important, c'est pas qu'on se... Enfin, le grave, c'est pas qu'on se plante. Le grave, c'est qu'on arrête. C'est ça, ce qui est grave. C'est quand on s'arrête. Mais ça arrive à tous de se tromper. C'est arrivé à Abraham. Il s'est arrêté. Mais Dieu dit, maintenant tu te relèves et tu continues le travail. Donc des pensées tordues, il en avait. Et les hésitations, les... voilà. Charan, ça veut dire, le terme veut dire desséché, désert. On le sait très vite, hein. Quand tu es dans une zone charan dans ta vie, il n'y a rien qui pousse. C'est aride, c'est sec. Il ne faut pas te plaindre. Peut-être, il y a des temps de désert que Dieu permet, mais quand même, il y a aussi des temps de désert dans lesquels on se met nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Et Dieu dit, mais continue ta marche. Est-ce que, maintenant je pose la question, est-ce que tu as l'impression que tu es en train de marcher? Et pose-toi la question. L'été, c'est bien comme zone hein, de réflexion pour dire où en est ma marche? Est-ce que je me suis arrêté dans ma marche? Est-ce que je crois encore en un héritage dans lequel je dois avancer? Les héritages sont tellement grands, on ne peut pas se dire j'ai tout. Surtout pas. Donc, voilà, il a repris la marche. Il est sorti de la zone desséchée. Dans Galates 5, il est dit, vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification devant la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi par la charité. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Donc, en fait, ce qui nous fait courir, c'est quoi? C'est la foi dans la charité. Hein, ce n'est pas la foi toute seule, c'est la foi dans la charité. On pourrait dire, on a la foi pour soi. J'ai un ministère, je veux un ministère, tout ça. Et puis la charité, on s'en fout. Ce n'est pas de cette foi dont il s'agit. Il s'agit de la foi qui agit dans la charité. C'est parce que j'aime Dieu et parce que j'aime mon prochain que je marche. Parce que j'ai une vision des nations. Parce que j'ai une vision de l'héritage. Et l'héritage de Dieu, c'est les enfants. Et c'est tous les enfants des hommes. Bien sûr que Dieu vise. Ensuite, Dieu, il a appelé Abraham, mais dans l'appel de Dieu, il y a quelque chose de solitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se décharger sur les autres. Moi, combien de fois j'ai entendu, encore récemment, des gens qui se sont arrêtés dans leur vie chrétienne et qui non seulement ne reconnaissent pas qu'ils se sont arrêtés, mais qui ont mis la faute sur les autres. Alors là, mes amis, il faut arrêter là. On ne peut jamais mettre la faute sur les autres. L'appel, c'est pour toi, c'est toi, devant Dieu. Tu n'auras pas d'excuses. Le pasteur n'a pas été gentil, les chrétiens étaient trop fous, il y avait trop de prophétiques, on m'a trompé. Arrêtez. Encore la semaine dernière, j'ai entendu ça. Quelqu'un qui était bien parti. Ah mais c'est les chrétiens, il faut arrêter. Dieu t'appelle, tu es responsable devant Dieu. Et donc il faut... Voilà, Abraham, il s'est remis au travail, il s'est remis en marche, et il a cette foi agissante, une foi agissante, la foi c'est toujours agissante, mais Abraham, il a vu quelque chose. Là, ça commence par voir la foi. Je vois quelque chose. Je vois mon héritage. Et Abraham, il a commencé par voir. Hébreux 11, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ça, c'est toujours Dieu. L'héritage, il n'est jamais pour nous tout seuls. Il est toujours pour les fils et les filles et les générations qui viennent. C'est un partage d'héritage, voyez. Et alors, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu l'architecte, le constructeur. Donc, il a vu quelque chose. Alors, on ne sait pas exactement. Il a vu cette cité, il a vu ce royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il a animé. Qu'est-ce que tu vois avec les yeux de ton cœur? Aujourd'hui, maintenant. Est-ce qu'il y a encore un rêve, quelque chose que tu vois, quelque chose que tu as vu? J'aimerais qu'on partage maintenant. On va prendre 2-3 minutes. Et je vais vous lancer la chose, mais j'aimerais que tu me dises, que plusieurs me disent, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais dire plusieurs choses. Est-ce que vous connaissez les deux visions fondatrices? La vision de Josué, la première vision fondatrice, et la vision établissement Daniel, école chrétienne. Est-ce qu'il y en a ici qui se rappellent les deux visions fondatrices? Peut-être ils se disent... Oui, non, mais Manuela, c'est pas du jeu, ça. On est d'accord. La vision fondatrice de l'Église, je la rappelle. Nous étions aux États-Unis et il y avait un ministère prophétique et nous étions une bande d'enseignants de l'établissement Daniel à être là-bas pour visiter l'école et voir. Et puis tout d'un coup, ce prophète arrive, il dit, où est le responsable? Moi, j'étais à la pause café. C'est bien les pauses café, parce que parfois c'est pénible, toutes les réunions sans arrêt du matin au soir. Bon. Et alors il m'appelle et puis il commence à prophétiser. Je vois une église. Je dis, mais on n'est pas une église, on est une école. Il avait du mal à comprendre. Je dis, pour un prophète, c'est pas terrible quand même. Et puis il dit, je vois une église. Je dis, ben, il faudrait que Dieu me parle à moi. D'accord. Et le soir, j'étais un peu fâché. Je dis, j'en avais assez avec une école, mais Dieu parle d'une église. Donc j'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, il faut que tu me parles. Et la nuit, le rêve est venu. Et je me suis vu en équipe, sur une estrade, des foules qui étaient autour, des malades, des gens de couleur, des boiteux, et l'onction de Dieu passait, et la guérison, ça partait dans tous les sens. Je me suis réveillé en larmes, en sueur, mais j'ai vu la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit, allez, go, et les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé, j'arrive à Mulhouse, je dis, voilà, je suis enceint d'une vision d'église. Il me dit, mais il y a assez d'églises, mon ami. Il n'y a pas besoin d'église. Et si Dieu, il avait parlé, il nous aurait parlé à nous en premier, etc., etc. J'étais embarrassé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ma faute si je suis enceint comme ça. Et puis la grossesse était énorme, jusqu'aux yeux. Et alors, ce qu'on ne savait pas, c'est que le collège allait être sur Guebwiller. Et ça, on ne le savait pas. On croyait que c'était Mulhouse. Alors, effectivement, à Mulhouse, il y a tout, mais Guebwiller. Et voilà. Et donc là, ça a couché. En 92, une vision. Et la vision des écoles, la vision fondatrice. Est-ce que certains peuvent s'en rappeler? Allez-y les amis, c'est quoi cette vision fondatrice? Qu'est-ce qui était vu dans un temps de prière? 1988, ça vous dit rien? Il y en a qui se grattent, il y en a qui s'en vont. Non, non. C'est on priait pour les écoles, pour l'éducation chrétienne, et il y a eu cette vision du pays de France avec des milliers d'étoiles qui déversent sur l'Afrique, sur le Maroc, l'Espagne, et ensuite toute l'Afrique du Nord. Et Dieu dit, ça sera les écoles que je vais bâtir. Et 20 ans après, au Mexique, avec Manuela, je partage la vision. Un monsieur vient me voir, il me dit, pendant que vous parliez, j'ai une vision. J'ai vu des milliers d'étoiles. Ce sont les écoles que Dieu va faire. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Ça va déferler sur l'Espagne et ça va envahir l'Afrique du Nord. Ça, c'est la vision, deux visions fondatrices. Maintenant, en tant qu'église, et après vous allez compléter, préparez-vous. Saint Matthews, une église, une école par ville et par village, etc. Vision, les montagnes de l'éducation, de la politique, de la formation, des arts, des médias, ces montagnes restaurées. Vision du cœur de la France qui est comme glacée dans de la glace là, et que Dieu, la glace, elle fond. Et le cœur de la France commence à revivre. Vision qu'on a reçue tous ensemble. Vision aussi d'un désert changé en jardin. Allez-y, continuez les amis. Quelles sont les visions qui sont dans vos cœurs? Que Dieu a mis dans vos cœurs, aujourd'hui encore, qui sont là, bien visibles. Allez-y, go. Guérison qui coule sur Guebwiller, il y a un dessin qui est là, et je peux vous dire, ça déménage. Ensuite, centre de parentalité avec des conseillers, guérison des familles. Dieu lève des conseillers pour la ville, il y a 10 ans, cette vision. Et c'est en train de travailler, le projet. Ensuite, autre vision qui est dans vos cœurs. Lieu de formation prophétique, ici. Quelqu'un avait vu, avant qu'on soit à Guebwiller, c'était Pierre-Daniel Martin. Il faisait un séminaire à Agapé, à Mulhouse. Pâques 92. Nous sommes arrivés ici en septembre seulement. Tout d'un coup, il s'arrête. Il dit, je vois la vallée, une vallée là. Il montre un peu, et quelqu'un a pu discerner, mais c'est Guebwiller. Il dit, je vois cette vallée, Dieu va lever une armée de prophètes dans cette vallée. Il y a quelque chose qui vient. Et puis, 3 mois après, nous démarrions l'église et l'école déménagée là-bas. On n'y est pas encore dans cette parole, mais ça, c'est une parole qui nourrit. Il y a eu la première école de prophètes ici, mais bon, voilà. Ensuite, autre vision, encore 2-3. Maison de prière 24 heures sur 24. Ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui nous nourrit ensuite. Puissance de l'esprit dans l'église, voilà. Là, le dessin qui est derrière. Les flots, voilà. Les flots. On est balayé par l'onction. Un rêve longtemps. Centre de formation de maître. Vision devenue réalité. Après 10 ans d'espérance et de travail. Et d'échec. Vous voyez ? Donc, on pourrait continuer. Mais je pose la question. On a besoin, comme Abraham, d'un rêve et d'une vision que Dieu nous donne, collective, individuelle aussi. Donc, Genèse 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde, vers le nord, le midi, vers l'orient, l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, et je te le donnerai. » Alors regardez, ici, une vision. Donc Dieu qui fait appel à l'imagination. On a besoin de développer l'imagination dans l'Église. Parce que la foi se greffe sur l'imagination. L'ennemi, il brise la capacité d'imaginer. Parce qu'il brise la foi. Donc, Dieu veut restaurer la capacité d'imaginer. Donc, je t'invite à dessiner, à décrire, à composer, à créer, à cultiver l'imagination qu'il t'a donnée, parce que ça, c'est cultiver la foi. C'est cultiver la foi. Et il n'a pas fait que voir Abraham. Dieu lui dit, lève-toi, parcours le pays. Imaginez des visionnaires qui restent couchés, qui disent, moi, supervision, mais c'est un truc de dingue. Je kiffe grave, c'est une tuerie, cette vision. Et tu restes sur ton plumard. En disant, mais c'est super ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu dit, lève-toi et va parcourir le pays que je te donne. Alors Abraham, c'est ce qu'il a fait. Et Daniel, c'est pareil. Quand il a vu, il a eu les visions nocturnes, il a vu les nuées, quelqu'un est semblable au Fils de l'homme, etc. Il s'avança, on le fit approcher de lui. On lui donna à ce Fils de l'homme la domination, la gloire et le règne. Donc, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, son règne ne sera jamais détruit. Vous connaissez Daniel. L'onction de gouvernement de Daniel est proportionnelle à la vision de gouvernement de Dieu. Plus tu vois Dieu gouverner, plus le don de gouverner, il te le donne. Donc, ce n'était pas seulement quelqu'un qui avait des visions, il gouvernait dans Babylone. L'onction de gouvernement, elle vient de la capacité de voir Dieu qui gouverne. Et donc, ça c'est vraiment un principe important. Plus tu verras Dieu souverain, plus l'onction d'autorité, elle sera sur toi. Et dans le temps de tabernacle, dans des temps parfois où on a l'impression que le ciel se déchire et qu'on voit Dieu, il y a une autorité qui vient. Il y en a qui se foutent et qui se moquent du prophétique. Moi, je peux te dire que quand on voit ce qui est dans le ciel, il y a une autorité qui vient du ciel, justement. Et donc, vraiment, quand on est parfois avec nos bâtons, là, attention, on ne rit pas. Il y a quelque chose qu'on fait, qu'on exerce, qui est vraiment, qui est de la réalité. Et donc Daniel, il a vu et il a gouverné en même temps. Apocalypse 5, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Rappelez-vous ce qu'on avait enseigné. Les 7, ces attributs de Dieu qui nous parlent peut-être, hein, je ne veux pas tirer trop dans le texte, mais peut-être de ces fameuses 7 montagnes. À toi la richesse, le monde économique. À toi la sagesse, le monde de l'éducation. À toi la force, la vraie force, c'est dans la famille. À toi l'honneur, tout ce qui est vie spirituelle, etc. La gloire, les arts, la louange, tout ce qui est parler, les médias, etc. l'honneur, ça peut être les médias. Tout est un peu tout. Mais disons, on voit ici différents attributs de Dieu. Et Dieu est celui qui a aplani les montagnes. Zacharie 4, versets 1 à 10. Donc quand on voit les montagnes, Zacharie 4, regardez ce qu'il dit. L'ange qui parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme que l'on peut réveiller de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parle avec moi, « Mais que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parle avec moi répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit, il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel dit à Zorobabel. » Et là, il nous le dit à nous ce matin. « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne ? Montagne des finances, montagne des travaux, montagne de l'éducation, montagne politique, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et voilà, qui es-tu, montagne ? Grâce, grâce pour elle. Voyez, la conscience de la grâce. Quand on voit des montagnes, eh bien, la révélation de la grâce de Dieu, elle brise la hauteur de ces montagnes. Donc, on revient à Abraham. Dieu lui dit, je vais faire de toi un père pour les nations. Waouh, waouh, waouh. Un père pour les nations. Quel est le rapport entre l'influence sur les nations et la paternité ? Le rapport est le suivant, c'est que Dieu ne gouverne que par des familles. Rappelez-vous, Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit, dans le ciel, paf, il crée le monde, il crée l'homme, il domine. Et il lui dit à l'homme, fais, continue. Donc le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement de famille. Dieu qui veut toucher toutes les nations, qu'est-ce qui commence ? Il forme un père. Voilà. Et Dieu, il continue aujourd'hui comme ça. Dieu veut toucher les nations, on a vu tous les drapeaux que Lionel a mis sur la carte du monde. Dieu commence par lever un père, Abraham. Et après bien des péripéties, cette paternité, c'est le vrai gouvernement de Dieu. Il n'y a pas de gouvernement sans famille. C'est pour ça que la famille est tellement attaquée. Et c'est pour ça que le signe d'une restauration de famille, ça parle d'une restauration de l'univers. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Abraham veut dire, le mot Abraham veut dire père élevé. C'est quand même dingue cette histoire. Dieu l'appelle à être père et son nom veut dire père élevé. Et quand il va recevoir le H, c'est pas le H à fumer, hein, mais c'est le H de Dieu. Quand il reçoit le H, eh bien c'est pour être le père d'une multitude de nations. Une paternité qui a grandi. Donc Abraham a persévéré. Et la paternité, le premier attribut de la paternité, c'est la persévérance. Les parents qui sont là, quand il y a des ados, vous avez vu ce que c'est la persévérance. Hein ? On dit les lascars là, pas simple, mais on y croit toujours. On y croit. Tu sais ? Et puis le gamin, il fait tout autre chose que ce que tu penses. Alors tu es là, mais tu as intérêt à persévérer. Les promesses, elles viennent quand tu persévères. Et la foi, elle marche toujours avec la persévérance. C'est une marche d'adoration. Et Abraham, quand il a été appelé, on pense qu'il avait à peu près 30 ans. Non, il a mis 30, pardon, il avait 70 ans. Mais il a mis 30 ans jusqu'à ce qu'il voit le début de l'accomplissement. Le fils, la promesse du fils Isaac à 100 ans. Donc à 70 ans, il a entendu l'appel de Dieu. C'est un peu tard, vous allez me dire. Mais c'est jamais trop tard. Et j'aimerais bénir ceux qui ont 70 ans au milieu de nous en disant, il y a encore des appels, fais attention. Fais attention, c'est pas encore le placard. Hein, ça revient. Ça s'en va, mais ça revient. Non, c'est ça revient. Donc, 30 ans, Joseph. Joseph a 30 ans, il sort de prison, il sort de la galère. Hop, il gouverne. Jésus, 30 ans, le ministère. Abraham, 30 ans. Et il rentre dans l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans ? Il aurait pu attendre, Non, il a parcouru le pays. Et tu sais ce qu'il a fait en parcourant le pays? Il a bâti des autels. Il a adoré Dieu. Et il arrive, juste, c'est un frère qui partageait ça au réseau Héritage, mais rapidement. Et il arrive, par exemple, il bâtit plusieurs autels. L'adoration, dans l'attente de la foi, c'est capital. Parce que la plainte, c'est le contraire de la foi. Vous voyez, la plainte, c'est tourner dans le désert, quoi. L'adoration, c'est pendant 30 ans, sans voir l'accomplissement de la promesse, il continue d'adorer. Et il y a quelqu'un qui aurait pu lui dire, écoute, tu devrais quand même arrêter d'adorer. Dieu, il t'a promis un fils. 30 ans, là, ça commence à faire. Tu as 100 ans, arrête d'adorer, là. Ce Dieu, il ne répond pas. Hein. Aujourd'hui, on voudrait qu'on adore, et en un an, deux ans, paf, tout qui vient, toutes les promesses qui se réalisent. Et il faut arrêter. Je ne dis pas qu'il faut toujours 30 ans, mais l'adoration est un processus, c'est un style de vie avec les yeux sur l'héritage. Et ça, c'est ce que Abraham a vécu. Donc, il a l'obéissance d'Abraham dans l'adoration, c'est ce qui a permis au fils de venir. La paternité, elle se nourrit de persévérance et de foi. Être des pères et des mères, c'est vraiment cela. Romains 4, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon celui qui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Regardez, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Les drapeaux mis ce matin, qui parlent des nations, ça se branche avec la foi. Notre vision n'est pas de devenir forcément une grosse église, un gros machin. Notre vision, c'est l'influence des nations et la multiplication. Et ça, c'est vraiment... Il crut, c'est pourquoi il devint le père d'un grand nombre. La paternité, ça va avec la foi. Notre vision d'église, c'est d'être une famille. Ce n'est pas pour être sympa, c'est sympa, une famille. Non, non, parce que la famille, c'est ce qui gouverne. La famille, c'est ce qui équipe. La famille, c'est ce que Dieu choisit pour toucher les nations. Donc, nous sommes appelés à bâtir. Et quand il est arrivé à Sichem, le premier hôtel qu'il a bâti, Dieu lui dit, voilà, le pays est pour toi. Il arrive à Sichem, qu'est-ce qu'il y a? Plein de Cananéens, plein d'ennemis. Au lieu de se barrer, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un hôtel et il adore Dieu. Alors nous, Français, peut-être on aurait dit, tiens, je suis dans le pays promis, super. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces Cananéens? C'est pas normal, comme tu m'avais dit quand même que tu me promettais là que le pays était à nous, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici là? Et voilà. Mais Dieu dit, mais justement, et les hôtels que tu vas bâtir, c'est au milieu de l'adversité. C'est au milieu de l'adversité que tu bâtis les autres. C'est ça l'adoration. Au milieu de tes problèmes, tu adores. On n'aime pas ça, mais c'est au milieu. Et Dieu se révèle. Dieu se révèle sur les autels, au milieu des difficultés et des Cananéens qui regardent comme ça. Voilà, donc ça nous parle beaucoup. La sphère où nous sommes appelés, c'est la sphère de nos luttes. C'est la sphère de nos luttes. La France est appelée à avoir un grand rôle pour enseigner les nations dans une pensée chrétienne. La Réforme l'a montré, Jean Calvin l'a montré, le fleuron de la littérature française, ce jeune homme embrasé qui a touché les nations. Il y a quelque chose en France, de Pascal, de Calvin, que Dieu veut relever et embraser à nouveau. Et c'est pourquoi nous sommes tellement encroutés dans une pensée tordue, parce que justement, c'est là que Dieu travaille. L'école chrétienne est un autel bâti en face des Cananéens et un signe que Dieu est en train de lever une génération. Les familles chrétiennes aussi sont ce signe-là. Donc Sichem, ça veut dire épaule, symbole d'autorité. Et mort, c'est pas mort en anglais, c'est les chaînes de mort, c'est l'instruction. Donc Abraham à l'école de la foi et à Sichem. Regardez Sichem. Le père Abraham bâtit un autel. Qu'est-ce qui se passe après ? Jacob, le petit-fils, a reçu la même promesse au même lieu. Ça veut dire que quand les pères, ils adorent dans un lieu, les enfants ont créé le sillon pour que la génération d'après maintienne ce cap de l'adoration sur ces mêmes lieux. Sichem, c'est les frères de Joseph ont vendu Joseph, mais c'est à Sichem que Josué a enterré les os de Joseph. C'est à Sichem que Josué et le peuple ont renouvelé l'alliance. À Sichem que Jésus a parlé avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Et ensuite, il va à Bethel. Pareil, Genèse 12, il se transporta vers la montagne, à l'Orient, à Bethel, dressa des tentes, ayant à Bethel, à l'Occident, et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, là où il y a l'autel, il y a la présence de Dieu. Là où il n'y a pas l'autel, c'est Haï, Haï, Haï. Hein, c'est toujours pareil, ça n'a jamais changé. Ça fait mal. Hein. Là où on n'adore pas, ça fait mal. C'est la plainte, c'est le refus d'avancer, c'est l'arrêt, c'est la désillusion, c'est la déception. Mais là où il y a l'autel, il y a l'héritage, il y a l'échange avec Dieu. Donc c'est à Bethel que Jacob et son petit-fils, Jacob le petit-fils, a bâti aussi un autel. La Bethel veut dire maison de Dieu. Et Haï, vous savez ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire aïe aïe aïe, mais aïe, ça veut dire ruine. Ruine. Le monde est en ruine. C'est pour ça que Dieu nous appelle à bâtir des autels. Et on annonce la restauration. Et donc, lorsque Genèse 28, il dit que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Une église est appelée à être un Bethel, bien sûr, une maison. Donc Bethel, c'est la porte des cieux. Que les gens puissent venir ici en disant, tiens, c'est la porte des cieux. Une échelle qui descend, qui monte. L'adoration des pères qui entraîne l'adoration des fils. Voilà, rapidement maintenant, Hébron, il continue Abraham, la promesse n'est toujours pas là, le fils n'est toujours pas là, et il continue à adorer et à parcourir le pays. Et alors, il arrive à Hébron, et à Hébron, il y a sa femme qui meurt, et il va acheter une terre, une caverne et un champ, un sépulcre. Ça sera le sépulcre des patriarches à Hébron, qui existe encore aujourd'hui. Mais donc, pour la première fois, il achète une terre qui va lui appartenir. Un petit bout, un champ. Mais quand tu achètes une terre et que tu es propriétaire de cette terre, en plein territoire ennemi, tu annonces quelque chose. Et moi, je me rappelle la venue, lorsqu'il y a eu l'achat ici, ou l'achat à l'établissement Daniel, l'acte spirituel qui était posé était extrêmement important. On achète une terre qui nous appartient et qui est signe du Canaan que Dieu nous donne. Donc Hébron, ça va être la demeure des pères, l'endroit des alliances divines, où les postérités vont être rappelées. Hébron, c'est le lieu où Caleb a reçu l'héritage aussi. Donc Caleb, Hébron nous parle d'héritage, voyez. Voilà, ce lieu représente la paternité, la demeure des pères. C'est là qu'on peut se nourrir. Et puis ensuite, il continue Abraham, et vous connaissez, on termine par là, il arrive à Jérusalem, enfin la future Jérusalem, le mont Sion. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois et Dieu a pourvu. Et en fait, ce chapitre qui, dans bien des Bibles, est appelé le sacrifice d'Isaac, on devrait l'appeler le sacrifice du Père. Et le Père qui donne tout ce qui... La paternité, c'est ça. La paternité, c'est donner. Et c'est se donner. Et dans cette paternité-là, eh bien, Dieu à libérer plus loin ce sacrifice d'Isaac, ça allait devenir le sacrifice de Jésus, qui allait être une bénédiction pour toutes les nations et permettre à la bénédiction d'Abraham de se répandre dans toutes les nations. Et David, plus tard, va acheter une terre, là aussi, là, au mont Sion, une terre, la terre du Jébusien. Et c'est sur ce lieu-là que Jésus va s'offrir en sacrifice. Maintenant, regardez, Dieu visite toujours les lieux du sacrifice. Dieu visite toujours les lieux d'adoration. Quand on adore quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une échelle qui se met vers le ciel, la foi qui ouvre le ciel, les anges qui descendent, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout ce que Jésus a, l'héritage, ce qu'il est, il le donne. La Sainte Cène nous rappelle cela, mais l'autel, l'adoration, c'est ça. L'adoration, ce n'est pas que chanter à Dieu. L'adoration, c'est recevoir ce que Dieu nous donne dans son héritage avec reconnaissance. Donc voyez, nous avons dans cette histoire d'Abraham, cette partie d'histoire d'Abraham, aujourd'hui ce qui est étonnant, c'est que tous les autels qu'il a bâtis se trouvent, ont été ravagés quelque part. Sichem, c'est Naplouse, Bethel, c'est Ramallah, Hébron, Kiryat Arba, le mont Morija, le mont du Temple, et vous savez, comme par hasard, ces lieux qui ont été contestés. Et les lieux d'autel sont des guerres. Nous vivons une guerre d'autel. Et il faut être conscient de ça. Et ceux qui adorent les groupes de louanges, ceux qui sont dans la maison de prière, il faut se rappeler qu'il y a une guerre. Ce n'est pas facile. Il y a une guerre d'autel. Mais tenons bon ce que Dieu nous a donné. Et rappelons-nous que Dieu va nous bénir, nous et notre postérité. Regardons à nouveau les étoiles comme Abraham et le ciel. Que le Dieu d'Abraham, les cinquantenaires et plus dans cette église, le Dieu d'Isaac, les trentenaires, et le Dieu de Jacob, au-dessous de 30 ans, les Jacob, allez, tout cela, marchons ensemble. Regardons ensemble une même vision et persévérons ensemble jusqu'à l'accomplissement des promesses. Seigneur, merci pour la foi d'Abraham qui est un don de toi et que tu veux réinsuffler dans nos cœurs aujourd'hui. Et alors que on rentre dans cette période estivale où plusieurs vont partir, où ça va être un peu chamboulé cette vie de famille, Seigneur, ma prière c'est que là où nous serons, là où les uns et les autres seront, tu accordes le repos, mais en même temps, tu accordes une vision renouvelée, un désir de ton royaume s'établir dans nos vies et sur cette terre. Et Seigneur, qu'en tant qu'Église, chacun, chaque pierre vivante, puisse accomplir la mission que tu as pour elle. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour les pères et les mères que tu fais de nous. Tu fais de nous des pères et des mères, et des fils et des filles aussi, bien sûr. Et Seigneur, dans cette paternité, merci pour l'héritage du monde et l'héritage des nations. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis.